Chapitre 10 et 11. De Noé à Abram. Babylone. Ces chapitres contiennent les générations des trois fils de Noé. On y trouve la mention de Nimrod, fondateur du royaume de Babel, ou Babylone, dont le nom occupe une place importante dans le livre de Dieu. Babylone est un nom et un principe bien connus. Depuis le chapitre 10 de la Genèse, jusqu'au chapitre 18 de l'Apocalypse, Babylone reparaît sans cesse sur la scène, et toujours comme ennemi de ceux qui sont appelés à rendre à Dieu un témoignage public sur la terre. Il n'en faut pas conclure que la Babylone de l'Ancien Testament soit identique à celle du Nouveau Testament. La première est une ville, la dernière un système. L'une et l'autre exercent une puissante influence hostile au peuple de Dieu. Israël était à peine entré en Canaan qu'un manteau de Shinar introduit la souillure et le trouble, la défaite et la confusion dans l'armée. Voir Josué 7. C'est le récit le plus ancien que nous ayons de l'influence pernicieuse de Babylone sur le peuple de Dieu. Tout lecteur de l'Écriture sait, d'ailleurs, quelle place Babylone occupe dans l'histoire du peuple d'Israël. Sans citer ici en détail les divers passages qui font mention de Babylone, nous ferons remarquer que toutes les fois que Dieu a un corps de témoin sur la terre, Satan y installe une Babylone pour corrompre et gâter le témoignage. Lorsque Dieu unit son nom à une ville du monde, Babylone prend la forme d'une ville. Lorsque Dieu unit son nom à l'Église, Babylone prend la forme d'un système religieux corrompu, appelé la grande prostituée, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse 17, versets 1 à 6. En d'autres termes, Babylone paraît toujours comme un instrument formé par la main de Satan dans le but d'entraver l'œuvre de Dieu, soit anciennement en Israël, soit maintenant dans l'Église. D'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, on voit Israël et Babylone opposés l'un à l'autre. Quand l'un monte, l'autre descend. Ainsi, lorsqu'Israël a complètement failli comme témoin de l'Éternel, le roi de Babylone lui a brisé les os, Jérémie 50, verset 17, et l'engloutit. Les ustensiles de la maison de Dieu, qui devaient demeurer dans la ville de Jérusalem, sont emportés dans la ville de Babylone. Mais Ésaïe, dans la sublime prophétie du chapitre 14 de son livre, nous transporte en face d'un état de choses tout opposé. Il nous fait voir l'étoile d'Israël croissante et glorieuse, tandis que Babylone est entièrement renversée. Et il arrivera, au jour où l'Éternel te donnera du repos de ton labeur et de ton trouble et du dur service auquel on t'a asservi, que tu prononceras ce cantique sentencieux sur le roi de Babylone et tu diras « Comment l'oppresseur a-t-il cessé ? Comment l'exactrice a-t-elle cessé ? Depuis que tu es tombé, l'abatteur n'est plus monté contre nous. » Versets 3 à 8. Voilà pour ce qui concerne la Babylone de l'Ancien Testament. Quant à celle de l'Apocalypse, le lecteur n'a qu'à lire les chapitres 17 et 18 de ce livre pour en connaître le caractère et voir quelle en est la fin. Elle apparaît dans un contraste total avec l'épouse, la femme de l'agneau. Elle est jetée dans la mer comme une grande pierre de meule, puis viennent les noces de l'agneau et tout le bonheur et la gloire qui s'y rattachent. Écush engendra Nimrod, lui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit « comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel ». Et le commencement de son royaume fut Babel, et Érec, et Akkad, et Calné, au pays de Shinar. Chapitre 10, versets 8 à 10. Voilà le caractère du fondateur de Babylone. Il fut puissant sur la terre, un puissant chasseur devant l'Éternel. Et le caractère de Babylone, d'un bout à l'autre de l'Écriture, correspond entièrement à son origine. Babylone paraît toujours comme une influence puissante sur la terre, luttant contre tout ce qui est d'origine céleste. Et ce n'est que quand elle sera entièrement détruite que s'élèvera dans le ciel le cri « Alléluia !» car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Apocalypse 19, verset 6. Alors Babylone prendra fin. Sa puissance et sa gloire, son orgueil et ses richesses, ses attraits et son influence auront cessé pour toujours. La tour de Babel. Dans le chapitre 11, nous avons deux grands faits, la construction de Babel et l'appel d'Abraham, l'effort de l'homme pour s'élever lui-même et la révélation faite à la foi de ce que Dieu a en réserve pour elle. Nous avons la tentative de l'homme pour s'établir sur la terre et l'appel que Dieu adresse à l'homme pour l'en faire sortir et lui faire trouver sa part et sa demeure dans le ciel. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles, et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, et ils y habitèrent. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Chapitre 11, verset 1 à 4. Le cœur humain cherche toujours à se faire un nom, un centre. Il veut posséder quelque chose sur la terre. Ses aspirations ne sont pas tournées vers le ciel, vers le Dieu du ciel, vers la gloire du ciel, mais toujours vers un objet d'ici-bas. Il faut l'appel de Dieu, la révélation de Dieu et la puissance de Dieu pour l'élever au-dessus du monde présent. Dans la scène que nous avons sous les yeux, Dieu n'est ni reconnu ni recherché. Le cœur de l'homme ne se préoccupe pas de préparer un lieu où Dieu puisse faire sa demeure. Son nom n'est pas même mentionné. L'homme dans la plaine de Shinar avait en vue de s'acquérir une réputation. En fait, nous le voyons toujours se recherchant lui-même, s'exaltant lui-même, excluant Dieu partout et en toutes choses. En suivant le cours de l'histoire du monde, nous retrouvons constamment chez les hommes une forte tendance à former des associations et des confédérations. C'est en grande partie par ce moyen qu'ils cherchent à accomplir leurs desseins. Qu'il s'agisse d'œuvres humanitaires, de religion ou de politique, rien ne se fait sans une association régulièrement organisée. Nous en voyons la première application dans la plaine de Shinar. L'Écriture nous montre à la fois le plan, le but, la réalisation et la ruine de cette association. Celle-ci fut formée dans le but, que notre siècle éclairé et civilisé ne renierait pas, d'assurer les intérêts de l'humanité et d'exalter le nom de l'homme. Mais la foi discerne un grand défaut dans toutes ces associations. Dieu est exclu. Or, entreprendre d'élever l'homme sans Dieu, c'est l'élever à une hauteur où son pied manquera et le fera tomber dans une ruine irrémédiable. Le chrétien ne devrait connaître d'autre association que celle de l'Église du Dieu vivant, formée en un seul corps par le Saint-Esprit. Il est descendu du ciel, comme témoin de la glorification de Christ, pour baptiser en un seul corps tous les croyants et en faire l'habitation de Dieu. Babylone est, à tous égards, le contraire de ce qu'est l'Église, et à la fin elle devient la demeure de démons, comme nous l'apprend le chapitre 18 de l'Apocalypse. Et l'Éternel dit, « Voici, c'est un seul peuple, et ils n'ont, eux tous, qu'un seul langage, et ils ont commencé à faire ceci, et maintenant ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons et confondons là leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre. » Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Chapitre 11, versets 6 à 8. Tel fut le sort de la première association d'hommes, et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Associez-vous, peuple, et soyez brisés. Saignez-vous, et vous serez brisés. Saignez-vous, et vous serez brisés. Ésaïe 8, verset 9. Dispersion et réunion. Mais combien tout est différent quand c'est Dieu qui associe les hommes entre eux. Au chapitre 2 du livre des Actes, nous voyons le Dieu saint descendre jusqu'à l'homme au milieu même des circonstances dans lesquelles le péché a placé celui-ci. Les messagers de la grâce sont rendus capables, par la puissance du Saint-Esprit, d'annoncer la bonne nouvelle dans la langue de tous ceux auxquels ils s'adressent. Dieu désire atteindre le cœur de l'homme, quel qu'il soit. Ce n'est pas ainsi que la loi fut promulguée sur le Sinaï en feu. Quand Dieu déclarait ce que l'homme devait être, il s'exprimait en une seule langue. Mais quand il révèle ce qu'il est lui-même, il s'exprime en une multitude de langues. Il faut que tout homme puisse entendre et comprendre la bonne nouvelle du salut, les choses magnifiques de Dieu. Acte 2, verset 11. Et dans quel but? Dans celui d'associer les hommes selon les principes de Dieu, autour de Dieu comme centre, dans le but de leur donner en réalité un même langage, un même objet, une même espérance, une même vie. Dans le but de les rassembler de telle sorte qu'ils ne soient plus jamais dispersés et confondus. Dans le but de leur donner un nom et une demeure qui durera toujours. Dans le but de leur bâtir une cité dont le fondement soit posé dans les cieux. Dans le but de les réunir autour de la glorieuse personne de Christ ressuscité et glorifié, afin que tous ensemble, ils le magnifient et l'adorent. Si mon lecteur veut bien relire le verset 9 du chapitre 7 de l'Apocalypse, il y trouvera une grande foule de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue, se tenant debout devant l'agneau, et tous, d'une seule voix, lui donnant gloire. Au chapitre 11 de la Genèse, les diverses langues sont l'expression du jugement de Dieu. Au chapitre 2 des Actes, elles sont le don de sa grâce. Et au chapitre 7 de l'Apocalypse, toutes ces langues sont réunies autour de l'agneau pour lui donner gloire. L'association de Dieu finit par la gloire, celle de l'homme par la confusion. L'une est le produit de l'énergie profane de l'homme déchu et a pour objet l'exaltation de l'homme. L'autre est introduite par le Saint-Esprit et a pour objet l'exaltation de Christ.